Bien, bonjour à tous. Merci de nous avoir suivis jusqu'en salle 5. Vous avez compris que l'amphithéâtre Budé est en cours de sécurisation pour ce qui va arriver demain. Mais nous sommes très contents de recevoir pour la quatrième et dernière fois de cette session l'event Yilmaz qui nous a fait l'honneur donc de sa présence durant ces quatre séances consacrées à l'écriture de l'histoire. C'est un véritable périple qui nous a conviés, qui nous a au fond régalé de ces discussions, de ces vues les plus originales et les plus profondes, qui nous a menés, vous en souvenez, depuis Hérodote jusqu'à aujourd'hui. C'est, je crois, en plein cœur de l'aujourd'hui que nous avons aujourd'hui rendez-vous. Et donc, l'event, c'est toujours avec le même plaisir, mais également teinté d'un peu d'émotion aujourd'hui, puisque c'est la dernière fois, que je te cède la parole.
Merci, Patrick. Bien, la semaine dernière, j'ai terminé le cours en évoquant une histoire de personne, vous renvoyant au poème de Paul Celan, « La rose de personne ». Alors, ce poème, vous le savez, était écrit en résonance à celui d'Ossip Mandelstam. Je le cite, « Non, jamais de personne, je n'ai été le contemporain. C'est trop pour moi d'un tel honneur. Oh, comme je déteste je ne sais quel homonyme. Ce n'était pas moi, c'était un autre. » Bien évidemment, la référence ici est à Rimbaud. Alors, entre-temps, j'ai vu un livre, je l'ai acheté, c'est un tout petit livre de Lévinas sur Celan. Le lieu que souhaite Celan, dit Lévinas, est un lieu où l'on saisit le moi comme étranger à cette personne. C'est l'entretemps où nous sommes face à l'autre, face au moi de l'autre. Sortie vers l'autre homme, est-ce une sortie, se demande Lévinas. Et il répond par les mots de Celan. C'est un pas hors de l'humain, se porter dans une sphère dirigée vers l'humain, mais excentrique. Comme si l'humanité était un genre admettant à l'intérieur de son espace logique, de son extension, une rupture absolue. Comme si, en allant vers l'autre homme, on transcendait l'humain vers l'utopie. L'étrange, c'est l'étranger ou le prochain. Rien n'est plus étrange, ni plus étranger que l'autre homme, et c'est dans la clarté de l'utopie que se montre l'homme. Hors de tout enracinement et de toute domiciliation, apatridie comme authenticité. Comme si, allant vers l'autre, je me rejoignais et m'implantais dans une terre, désormais natale, déchargée de tout le poids de mon identité. Terre natale qui ne doit rien à l'enracinement, rien à la première occupation, terre natale qui ne doit rien à la naissance. Et je me suis posé la question, alors comment atteindre donc cette, si on parle d'une histoire de personne, surtout quand l'idée que l'homme acquiert son identité à sa naissance, identité qui la précède, et est profondément enracinée dans le sol, est une idée qui persiste encore dans la modernité de notre monde. Alors, le nom de famille, dit Lévi-Strauss, est un classificateur de lignée. Il inscrit d'emblée l'enfant au sein d'une filiation. Le nom de famille confère d'emblée à son porteur, du fait de sa signification originale, un statut social, une position au sein d'une hiérarchie locale. Le nom est donc bien un classificateur social. Le nom de famille concourt à classer l'individu dans des séries géographiques, sociales, parentales, dont les connotations se révèlent selon les époques et les groupes sociaux, positifs ou négatifs. Il n'est pas sans importance d'être, de par son nom, repéré comme étranger ou au contraire associé au plus grand nombre, de même porter un nom prestigieux, véritable patrimoine symbolique dont on doit se rendre digne et qu'on dit à défendre, influe sans doute sur la destinée du porteur. Françoise Zonabinde, dans son excellent article « Pourquoi nommer ?», rapporte qu'en Grèce, à Karpathos, en 1977, il y a 40 ans presque, la société est toujours dominée par les paysans riches qui tous portent des patronymes indiquant une fonction prestigieuse dans la hiérarchie ecclésiastique. La classe moyenne est lotie de noms neutres issus de prénoms masculins. Enfin, les plus pauvres et les bergers, qui constituent une catégorie à part, se reconnaissent à des noms péjoratifs formés à partir de sobriquets grotesques ou de surnoms infamants. Pourtant, là où la modernité est passée, du côté de la France, aux Minots en Châtillonnais, où Zonabinde a fait son terrain, le basculement dans la modernité sape les racines familiales. En 1836, je cite, date du premier recensement que l'on possède sur le village, Minots compte 718 habitants, soit 180 unités domestiques qui se partagent 92 patronymes différents. En 1968, 359 habitants constituent 107 unités qui portent 77 patronymes différents, dont 8 seulement sont communs avec ceux de 1836. Alors, donner à un nouveau-né le prénom d'un parent, ce n'est pas seulement accomplir un acte de piété filiale, c'est prédestiner l'enfant à perpétuer son aïeul éponyme et au-delà prolonger une lignée. Pendant longtemps, les prénoms furent suivis soit du nom de lieu de naissance, du puits, des forges, de la lande, d'Aquin, d'Assise, Adenauer, ou du nom du père, Ibn Tufayl, Ibn Arabi, Ben Ezra, Ben Maimon, qui veut dire fils de, ou bien de la profession du père et de la famille, Kavafis, Ziljian, Baruchiolu, Boucheron, Skinner. Alors, le discours d'Ulysse est exemplaire dans ce sens. Ce héros qui avait perdu jusqu'à son nom à l'île des Phéaciens, il le récupère au début du chant 9 de l'Odyssée par ces mots. Parce que Alcinous lui demande « Mais qui es-tu, toi, qui pleures tout le temps comme ça ?» Alors, il dit fièrement, « Je suis le fils de Laerte, Ulysse, qui, par mes ruses diverses, me suis fait connaître à tous les hommes et dont la gloire est montée jusqu'au ciel. J'habite Ithaque, au rivage élevé, et je saute à quelques lignes. Non, rien n'est plus cher à l'homme que sa patrie et ses parents. » Donc d'abord, il est le fils de Laerte, puis il est d'Ithaque. Donc il est Ibn Laerte, d'Ithaque. Mais que veut dire patrie ? Est-ce un bout de terrain qu'on occupe, souvent en massacrant ou en chassant ses anciens habitants ? La patrie d'Aînée, par exemple, est-ce la ville de Troie ? Ou bien c'est la terre, Latium, qui l'a conquise et occupée en tuant Latinus, le père de sa future épouse Lavinia ? Silistra ou Durostor, ville sur les rives de Danube, en Bulgarie, annexée à l'Empire ottoman en 1388 par une conquête militaire et désignée par le poète Naam Kemal comme le symbole de la patrie pour laquelle il fallait mourir. Est-ce que Silistra constitue-t-elle toujours un bout de la patrie pour les jeunes Turcs d'aujourd'hui ? Pour l'identité, il nous faut donc d'abord des parents et un sol, une patrie, une cité pour laquelle il fallait sacrifier sa vie sans hésitation. C'est la belle mort des Grecs, Kalos Thanatos. Pour les femmes, la patrie est d'abord celle des pères et ensuite des époux, si elles ne s'appelaient pas Marguerite de Navarre ou Marie de Médicis. Quant aux esclaves, ils n'avaient certainement pas de nom. Le sol, les parents, la culture, la religion et la langue d'où nous sommes issus et auquel nous appartenons nous fournissent notre identité. Notre identité dans ce schème non moderne ou amoderne, nous précède. Elle nous est antérieure, elle vient du passé, elle persiste dans le présent et se transmet au futur. C'est par rapport à cet héritage que nous existons. Exclusion, excommunication, extraction, expulsion, exil sont des synonymes de mort dans cet univers. Comme l'affirme Zonabinde, je cite, « Priver quelqu'un de son nom, le réduire à un matricule, c'est le rejeter dans le néant, hors de la communauté des hommes qui tous et partout portent un nom. » Et bien entendu, l'identité se définit aussi par rapport à un autre et souvent dans un rapport de force. L'humanité cesse aux frontières de la tribu, du groupe linguistique, parfois même du village, disait Lévi-Strauss en 1951. Il continuait, à tel point qu'un grand nombre de populations dites primitives se désignent d'un nom qui signifie « les hommes », ou parfois, dirons-nous avec plus de discrétion, « les bons, les excellents, les complets », impliquant ainsi que les autres tribus, groupes ou villages, ne participent pas des vertus ou même de la nature humaine, mais sont tout au plus composés de mauvais, de méchants, de singes de terre ou d'œufs de poux. On va souvent jusqu'à priver l'étranger de ce dernier degré de réalité en en faisant un fantôme ou une apparition. Et dans l'exemple, la conquête de l'Amérique, quand les Espagnols cherchaient l'âme des Indiens, les Indiens mettaient les Espagnols dans des bouts de l'eau pour voir si leur corps se pourrissait. Donc, c'est un peu de deux côtés qu'on voit la même chose. De nos jours, cette conception non moderne persiste et continue à survivre dans la modernité. Pour ce non-moderne qui persiste dans le moderne, l'humanité cesse au large de l'île de Lampedusa, à la jungle du Calais, à Barbès. La très grande muraille de Chine, construite contre les Tukyu, qui veut littéralement dire « étrangers monstrueux » en chinois, donc les barbares turcs, voit de nos jours plusieurs imitations. Celle qui s'étale sur 900 km en Turquie et la Syrie, financée par l'Union européenne pour empêcher le flux migratoire, celle construite par l'État d'Israël contre les Palestiniens et celle que souhaite le président Trump pour empêcher les Mexicains de venir sur le sol des États-Unis. En plus, selon Trump, il revient au Mexique de payer les frais de construction. Or, en 1989, en abattant le mur de Berlin, on avait cru qu'on rasait à jamais la possibilité d'un mur. Le barbare, dit Lévi-Strauss dans ce texte, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. Dans cette conception non moderne de la communauté, l'identité est conçue sur le mode de la mêmeté, qu'il faut préserver à tout prix, même au prix de sa vie. Un et tous se recouvrent et ne font qu'un. C'est la primauté de l'un uni. Bien entendu, il pourra y avoir des discordes internes, mais il faut les éviter sur le champ. L'existence de la discorde interne n'est pas souhaitée et vue comme source de malheur, comme le montre, par exemple, l'ire d'Achille contre Agamemnon. La guerre civile, la stasis, n'est-elle pas un scandale? La fratricide aussi. Et pourtant, chose étrange, la Bible et la fondation de Rome débutent par des fratricides. Alors cette unité et cette continuité de l'identité découlent de la primauté du passé dans l'organisation de la vie. Le moment de la fondation de la communauté, le moment de la production du savoir, la constitution du soi, tout ce qui fait que l'entité est entité vient du passé. Les vieux, séniles, ne sont pas respectés parce qu'ils sont proches de la démence, mais parce qu'ils sont plus près du moment de la création des dieux et des ancêtres. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont le droit de gouverner au Sénat. Ils ont l'auctoritas. Ici, le corpus politicum doit être identique à lui-même. à son existence du passé pour pouvoir se perpétuer dans le futur. Comme le vieil océan des champs de Maldor de Lautréamont, je le cite. « Vieil océan, tu es le symbole de l'identité, toujours égal à toi-même. Tu ne varies pas d'une manière essentielle. » Il nous faut un moi comme un nous, un sujet assujetti à la communauté et défini par ses devoirs envers elle et qui ne met pas en cause les fondements de ce nous. Selon Marcel Mauss, dont la table est dans le bureau de Patrick Boucheron, le citoyen romain a droit au nomen, au prénomen et au cognomen que sa gens lui attribue. Prénom qui traduit par exemple l'ordre de naissance de l'ancêtre qui le porta, primus, secondus, etc. On n'avait pas le droit d'emprunter, de se parer d'aucun prénom, d'aucune autre gens que la sienne. Alors, le changement pour l'individu et pour les sociétés non modernes est bien entendu naturel et n'est autorisé pourtant que dans le cadre du naturel. La nature étant la création parfaite et immuable du commencement. L'homme, par exemple, il changera, il deviendra vieux et agira selon son âge, ce qui est naturel. L'inverse ne l'est pas. Libre arbitre, il peut tout autant être proie à ses passions et commettre un crime, il peut assassiner quelqu'un. Ça aussi, c'est naturel. Il sera châtié. Ce qui est naturel, par exemple, c'est faire du sexe pour se reproduire, et non le contraire. C'est pourquoi, même de nos jours, on entend souvent de la part des anciens, entendant les modernes anti-modernes, que l'homosexualité est contre la nature. Selon Françoise Héritier, l'identité samo est donnée par la définition sociale. La règle sociale collective s'incarne dans l'individu et lui donne son identité en lui assignant une place, un nom et un rôle qui doivent être les siens en raison de sa situation généalogique et chronologique dans un lignage donné. Il est né dans un lignage de maître de la terre ou de maître de la pluie, de fossoyeur ou de forgeron. Il est homme ou femme, aîné ou cadet. L'identité samo est le rôle assigné et consenti, intériorisé et voulu, qui est tout entier contenu dans le nom. Gâter le nom conduit au suicide ou à l'exclusion volontaire du groupe. À la fin de son article, de l'article de Françoise Héritier, on voit bien que chez les samo, l'individu est l'homme au sens de vir, et le groupe en tant qu'instance sociale est l'expression de la masculinité. L'écart, la différence et la nouveauté ne sont pas souhaités dans ces systèmes de production identitaire. Avant et après doivent être semblables, identiques, pour que les normes, la morale et la gloire aient un sens. Sinon, on tombe soit dans l'hubris, soit dans la trahison. L'historien Magis Travite était un des outils pour assurer la continuité de l'identité. Et l'écriture de l'histoire, son support, son média. Dans son introduction à l'édition spéciale du Mimesis d'Eric Auerbach pour célébrer son 50e anniversaire, Édouard Saïd emprunte à Gabriel Garcia Marquez la citation suivante. Les êtres humains ne naissent pas seulement le jour où leur mère leur donne naissance. La vie les oblige à accoucher d'eux-mêmes. Ce fut en effet le cas d'Eric Auerbach. Selon son collègue Harry Levin, il fut l'accoucheur de lui-même. Victor Klemperer, jaloux, raconte dans son journal comment Auerbach obtient le poste de Spitzer à l'Université d'Istanbul en 1936 grâce à Benedetto Croce, et ces deux hommes étaient liés par leur amour pour Giambattista Vico. Spitzer part à Baltimore, où il va rencontrer Jean Starobinski, Georges Poulet. Et à Istanbul demeure Auerbach, qui fait la connaissance du délégué apostolique Monseigneur Roncalli, qui deviendra pape sous le nom de Jean XXIII et ordonnera le Concile Vatican II. Monseigneur Roncalli donne accès à Auerbach, à sa bibliothèque et à la patrologie de Migne. En 1942, quand commence la solution finale, Auerbach commence à écrire son Mimesis. Mais avant, déjà, le 12 décembre 1936, il écrit une lettre d'Istanbul à son ami Walter Benjamin. Je le cite. « La situation ici n'est pas toute simple, mais pas non plus dépourvue d'attrait. On a jeté par-dessus bord toutes les traditions et l'on veut édifier à l'européenne un État absolument turc national, rationalisé de part en part. Cela va très vite, comme en un songe ou un conte. Presque plus personne déjà ne sait l'arabe ou le persan, et même des textes turcs du siècle dernier deviennent rapidement incompréhensibles, car la langue est à la fois modernisée, réorientée d'après le turc ancien et écrite en caractère latin. Le 3 janvier 1937, toujours dans une lettre à Benjamin, Auerbach raconte la situation dans le détail. Mais pour le reste, le pays est dirigé avec rigueur par Atatürk et ses Turcs d'Anatolie, race d'hommes naïves, méfiantes, honnêtes, un peu maladroites et paysannes, et d'autant plus émotives. Parce que plus dure et moins scrupuleuse, moins aimable, plus inflexible que les autres populations méridionales, et pourtant aimable, douée d'une grande force vitale, habituée à l'esclavage et à un travail pénible mais lent. Le grand chef est un sympathique autocrate, malin, grand seigneur et doué d'humour, complètement différent de ses collègues européens. Il a en effet réellement transformé ce pays en un État et est absolument incapable de phraséologie. Ses mémoires commencent par cette note. Le 19 mai 1919, je débarquais à Samsun. À ce moment, la situation était la suivante. Mais tout ce qu'il a fait, le fut en combattant les démocraties européennes d'une part et le vieux sultanat mohammedan et pan-islamique d'autre part. Le résultat est un nationalisme pratiquement anti-traditionnel. Rejet des restes de toute la tradition culturelle mahométane, retrouvaille avec un être turc original fantasmé, modernisation technique au sens européen afin de vaincre avec ses propres armes cette Europe détestée et admirée. D'où la préférence accordée aux émigrants européens comme enseignants, car l'on peut apprendre grâce à eux sans avoir à redouter de propagande étrangère. Résultat, un nationalisme au superlatif et en même temps une destruction du caractère historique national. Cette image, qui n'est pas encore visible pour tous en d'autres pays comme l'Allemagne, l'Italie et sans doute la Russie, en étant 37, s'expose ici dans toute sa nudité. La réforme linguistique, à la fois fantastiquement turque originale, épuration des influences arabo-persanes et moderne technique, a réussi à faire en sorte qu'aucun habitant de moins de 25 ans ne puisse plus comprendre qu'un texte religieux, littéraire ou philosophique datant de plus de 10 ans. La spécificité de la langue disparaît rapidement sous la pression de l'écriture en caractère latin imposée il y a quelques années. « Je pourrais remplir des pages entières de détails », dit Auerbach. Le tout se laisse concevoir ainsi. Il m'apparaît de plus en plus clairement que la situation mondiale actuelle n'est rien d'autre qu'une ruse de la Providence pour nous amener d'une manière douloureuse et sanglante à l'international de la trivialité et à l'espéranto de la culture. J'en ai déjà eu l'intuition en Allemagne et en Italie, au regard de l'effroyable inauthenticité de la blue-bow propaganda, propagande de la terre et du son, mais ce n'est qu'ici que cela devient presque une certitude. La situation décrite par Auerbach est la conséquence dévastatrice d'une mauvaise gestion de la temporalité nouvelle qui voit le jour avec l'arrivée du moderne en Turquie. Le passé très profond, qui s'est vu s'ouvrir avec la modernité, a engendré toute une série de fantasmes idéologiques, de projections et de pratiques désastreuses. Voyons le cas de l'Empire ottoman, une société non moderne qui essaie de relever le défi de l'arrivée du moderne. Ici, on ne verra que le démantèlement de structures sociales et temporelles d'une société qui n'arrive pas à gérer son coming out. Ici, les conséquences de cette transition, de ce transmoderne, sont plus que désastreuses. Mais cette transition aurait pu se passer sans dégâts. L'aboutissement aurait pu être un succès. Cette contingence existait, mais elle ne s'est pas produite. Reprenons les choses dans leur historicité. Si je ne vous encombre pas de dates et des choses étranges de turcs. Alors, dès 1839, l'Empire ottoman vire à l'Occident. Les sultans acceptent d'organiser l'appareil étatique et bureaucratique à la manière des pays européens et notamment de la France. Bien entendu, pour agrandir et consolider encore plus leur pouvoir, mais aussi pour retrouver la grandeur de l'Empire dont le déclin se profile depuis 1699, marqué par le traité de Karlowitz et d'énormes pertes de territoire. L'Empire n'est plus en état de dicter sa force aux infidèles et l'ère des conquêtes est terminée. Le décret dit de Tanzimat, proclamé en 1839, est en effet une triste lamentation nostalgique sur la perte de force à cause de l'éloignement des principes de la charia et indique la voie à reprendre, la réforme du Coran et de la charia dans un monde révolu. Ce n'est pas une fête pour les Ottomans, comme on présente souvent le cas. C'est vraiment une journée de deuil. Les gens pleurent en le lisant, cette déclaration. Les Ottomans espéreront désespérément une refonte de la force militaire pour un renouvellement de l'esprit de conquête perdu, mais désormais l'âge des conquêtes a pris fin. Or, ayant compris que le passé est vraiment obsolète, il faut donc inventer un passé glorieux qui va désormais être érigé en altérité révolue en vue d'un futur meilleur. En 1856, l'isonomie entre les musulmans et les non-musulmans est instituée. Dès lors, les non-musulmans entrent dans la fonction publique et s'inscrivent dans les écoles publiques, tant militaires que civiles. La même année, l'Empire célèbre la fondation de la Banque ottomane. Pendant cette période, le droit aussi vire vers l'Occident. En 1850, on édicte le nouveau code du commerce. Le service militaire est désormais généralisé et obligatoire pour tous. Des écoles, des lycées, des universités s'ouvrent. On réforme le domaine de l'industrie. En 1858, un nouveau code pénal, largement influencé par celui français, entre en vigueur. Alors, les musulmans des classes moyennes et pauvres n'apprécient pas du tout ces réformes. Ni les ultra-réformistes, ces nouveaux ottomans. Pour les uns, c'est le blasphème, l'injure à la charia, on devient des infidèles, on devient autre, des gavours. Et aussi, on paye très cher ces réformes coûteuses. Plus de réformes, plus d'impôts et moins de richesses. Pour les autres, la nouvelle élite, les nouveaux riches, bureaucrates et commerçants, il faut une constitution, une vraie, un parlement, un sénat, des élections, il faut cadrer le pouvoir du sultan, et s'intégrer davantage à la première mondialisation en tant que bourgeois. Finalement, même moderniste, en demeure musulman et assez jacobin et opportuniste. Le pilier de l'Empire, c'est les musulmans. Et la maison d'Haussmann est destinée à mener à la domination du monde pour la société et pour les autres, ces nations loyales, Milleti Sadka, non musulmans qui composent l'Empire. L'affaire s'avère très complexe. Ils en ont assez de vivre dans un monde hétéronome et ils ne s'identifient nullement avec le passé glorieux de cette nation dominante, Milleti Hakime, les sunnites. La patrie, pour eux, c'est autre chose. Vers la fin du XIXe siècle, l'identité change. De l'Ottoman, on passe aux Turcs. Des nouveaux Ottomans aux jeunes Turcs. C'est une unité identitaire inventée récemment au cours de la dissolution de l'Empire et la refondation de l'État-nation, mais assez mal diffusée à ses débuts, car le mot turc désignait surtout les tribus pasteurs, nomades. C'était comme une sorte d'insulte. On disait « etrak bidrak », ces turcs complètement ignorants. C'est dans cette atmosphère de perte de territoire et d'installation d'un régime autoritaire que le mot « hurriyet », liberté, devint une nécessité vitale. En effet, était venu le moment de sauver la patrie et la nation. C'est dans le sens d'empêcher les pertes territoriales tout en faisant la guerre contre le désir de la liberté des nations non musulmanes qui ne veulent plus être des ennemis, des protégés. Et donc, la notion de liberté qui commençait à circuler n'aurait jamais le sens de la liberté libérale des modernes, de Benjamin Constant, par exemple. C'est une liberté à l'ancienne, voulant que les citoyens soient complètement assujettis à l'État souverain, tout le monde, arménien, grec, juif, et l'individu, esclave de la communauté dont il est membre, n'avait que des devoirs et responsabilités, afin que l'ensemble soit libre, cet État soit sauvé. C'était la tyrannie de l'hypothétique bien public. L'autorité de l'État sera confondue avec la liberté et tous les moyens allaient paraître bons pour étendre son action sur le corps social et les individus. Là fut la source du malheur turc, qui commença bien avant les régimes totalitaires. En consacrant le rejet de la voie libérale, le tournant de 1878 sonna aussi le glas du pluralisme, la mise en avant de l'identité musulmane dans l'Empire, et son repli nécessaire sur une Anatolie islamisée furent considérés par Abdulhamid comme les conditions de survie de l'Empire. La voie autoritaire et homogénéisatrice suivie par Abdulhamid à partir de 1878 survivra à sa remise en cause temporaire après la révolution de 1908. C'est elle qui finira par être suivie par les jeunes Turcs puis, après la Grande Guerre, sous la République, par Mustafa Kemal. C'est à partir de 1870 qu'émergea l'idée d'un islam compatible avec la science et que plusieurs réfutations de renom sortirent de l'imprimerie. Celle, par exemple, de Cemalettin el-Afghani, qui mourra à Istanbul, et sera suivi par Saïd Nursi, celle de Namık Kemal, qui fut un des poètes adorés de Mustafa Kemal, qu'on vient de voir, Muhammed Abdou, qui fut le disciple d'Al-Afghani, puis par Hassan al-Banna. Ces idées réformistes vont circuler dans les cercles musulmans, radicaux ou libéraux, en ayant des échos plutôt favorables, mais comme l'affirme François Georgeon, je cite, « les guerres balkaniques, la montée du nationalisme turc, ont contribué à rejeter vers le conservatisme les éléments les plus avancés de l'islam ottoman. » Toujours selon Georgeon, Akif Ersoy et Sirat Mustaqim, la revue Sirat Mustaqim, représentaient l'aile la plus libérale et la plus moderniste du courant islamiste. Ces courants vont être férocement réprimés et écrasés par Mustafa Kemal dès 1924. Mais en 1902, personne, mais vraiment personne, n'avait une idée claire sur la manière de gérer ensemble ou l'ensemble de l'Empire. Et on opta alors pour la solution la plus simple, mais la plus sanglante. Créer par la force des armes un État-nation turc civilisé, à la fois en épurant les non-musulmans, en assimilant les musulmans non-turcs, les Kurdes, et en essayant d'enfermer la religion dans le fort intérieur des individus. Un État composé d'une élite bureaucratique, occidentalisée et anticléricale, qui se dresserait comme modèle civilisateur aux yeux de la population. Il s'agirait, au fond, non pas d'une société instaurant l'autonomie comme son principe d'existence, mais un groupe de gens armés pensant que la société était une pâte à modeler Play-Doh. Ce fut la conséquence d'un positivisme appliqué sans scrupule à la société, d'un univers régi par un régime de vérité unique. La source du droit n'était ni ne sera pas du côté des ancêtres, de la tradition ou des dieux, mais elle ne résidait pas pour autant dans l'égale liberté accordée aux individus. Enfin, peut-être du côté des ancêtres, car si on regarde au nom pris par Mustafa Kemal, Atatürk, ancêtre turc. Alors nous vivions probablement dans une sorte de fascisme avant la lettre, bien avant qu'il ne fût défini par Giovanni Gentile en 1925 dans son manifeste des intellectuels fascistes. Alors l'enchaînement des choses est bien connu. La Première Guerre mondiale, le génocide des Arméniens, le démantèlement de l'Empire, l'invasion d'Istanbul par les Anglais et d'Izmir par les Grecs, la résistance de Mustafa Kemal et la déclaration de la République en 1923. Suite au traité signé à Lausanne, 1400 Grecs originaires d'Anatolie seront expulsés de leur foyer, ainsi que 400 000 Turcs musulmans de la Grèce. Déjà, on avait perdu 1,5 million d'Arméniens en 1915, et donc de 1914 à 1927, dans cette petite portion de l'Empire qui est l'actuelle Turquie, le pourcentage des non-musulmans passa de 14 à 27, faites attention, passa de 35% à 5% d'abord, et ces 5% seront réduits à quelques dizaines de milliers après la Kristallnacht d'Istanbul du 6 au 7 septembre 1955. Oui, la résistance en Anatolie s'organisa dès 1919, avec les anciens unionistes accusés et recherchés du génocide des Arméniens. C'est d'ailleurs un autre péché impardonnable de la République qui fut d'occulter le génocide et protéger les coupables. Les libéraux nationalistes, les Kurdes qui avaient reçu de Mustafa Kemal une promesse d'autonomie administrative, donc une identité, et surtout les croyants musulmans et islamistes de toutes sectes confondues, sunnis et alévis, qui s'étaient enrichis par les biens confisqués et redistribués des Arméniens. À cet égard, la propagande pour l'incitation à la résistance est singulière en 1919. Le pays de l'islam, son calife et son sultan sont en danger. Sauvons-les. À l'inauguration de la dernière assemblée nationale, dissoute en 1919 à Istanbul et reconstituée à Ankara le 23 avril 1920, Mustafa Kemal publia, deux jours plus tôt, un mot d'ordre pour respecter soigneusement les prières, les sacrifices et la lecture de Coran qui se tiendront un vendredi saint. Durant la guerre d'indépendance, la loi prohibitionniste restera en vigueur, sauf pour Mustafa Kemal, bien entendu, un adepte de Raqqi qui tenait sa table à Chankaya. Kemal était athée, pragmatique et opportuniste. La monarchie du sultan fut abolie le 1er novembre 1922, presque un an avant la proclamation de la République. Et de la manière d'un Cesare Borgia, il multipliera ses attaques contre l'islam dès qu'il se sentira en sécurité. Le 3 mars 1924, le califat fut aboli afin d'inculquer l'idéologie nationaliste et laïque à l'ensemble de la population turque. Et la loi sur l'unité de l'enseignement national fut aussi acceptée. La présidence des affaires religieuses remplaça le califat. C'était une institution étatique chargée d'administrer et de contrôler le culte islamique. Le 20 avril 24, ce fut le tour de la Constitution et une bonne partie des libertés prévues par celle de 21 furent alors supprimées. Lorsqu'il visita Kastamonu, en uniforme de maréchal, avec ses bottes, son fouet et son chien, Mustafa Kemal montra du doigt un homme dans la foule, vêtu d'un costume et portant sur la tête un fez entouré d'un turban vert, une blouse sur le dos et par-dessus une veste. Mustafa Kemal s'écria devant le peuple qu'il s'agissait d'un déguisement absurde et qu'un homme civilisé ne pouvait se vêtir ainsi sans se livrer au ridicule universel. Le 25 novembre marqua l'époque où la loi obligea désormais les hommes à se vêtir d'un chapeau. Le port de certains vêtements, qui étaient les symboles religieux comme le voile et le fez, furent proscrits dans l'espace public. Le chapeau devint obligatoire et sous peine de mort. Dans un passage du Petit Prince de Saint-Exupéry, au chapitre 4, on trouve une allusion à cette réforme triste. Je cite « J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où vient le Petit Prince est l'astéroïde B612. Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope, en 1909, par un astronome turc. Il avait fait alors une grande démonstration de sa découverte à un congrès international d'astronomie. Mais personne ne l'avait cru à cause de son costume. Les grandes personnes sont comme ça. Heureusement pour la réputation de l'astéroïde B612, un dictateur turc imposa à son peuple, sous peine de mort, de s'habiller à l'européenne. L'astronome refit sa démonstration en 1920 dans un habit très élégant et cette fois-ci, tout le monde fut de son avis. En fait, elle est triste, la dictature. Mais la tristesse découle aussi de l'attitude tellement bien décrite des grandes personnes civilisées. Donc le mot « civilisation », à un moment donné de l'histoire, fut meurtrier. Comment ne pas se souvenir des tristes tropiques de Lévi-Strauss quand il décrit, quand il part au Brésil, il voyait derrière l'hôpital les employés mettre les chemises infectées pour que les Indiens les portent. En effet, pour la République kémaliste, le peuple, ignorant et musulman, et donc nécessairement conservateur et réactionnaire, était vu comme les sauvages de l'ère coloniale. C'était des bêtes brutes qu'il fallait civiliser ou tuer, comme en 1938, ces Kurdes alévis à Dersim par des attaques au gaz, comme des rats dans les cavernes, disaient les témoins. Le peuple, oui, était en retard devant la modernité. Souvenons-nous des textes ethnologiques de l'époque, surtout des Britanniques. Le mot « retarded », en retard, était synonyme du sauvage, mais aussi « retarded », c'était quelqu'un de « retarded ». Le peuple turc, donc, était en retard, et donc « retarded », à cause de l'islam. Le 30 novembre, une loi interdit toutes les sectes, les ordres religieux, les lieux de culte soufis, les sanctuaires vénérables, la réorganisation de l'appareil judiciaire marqua la suppression des tribunaux religieux en 24, l'abolition du droit islamique, remplacé par le droit républicain et nationaliste, et la centralisation de l'organisation juridique sous l'autorité du ministère de la Justice. En 1928, l'article de la Constitution de 24 qui érigeait l'islam en religion officielle est aboli. Et le 3 novembre 1928, fut appliquée l'une des réformes les plus importantes, c'est l'adoption du nouvel alphabet turc inspiré de l'alphabet latin dont Auerbach faisait le cas. En 25 et 31, on adopte officiellement le calendrier grégorien, fuseau horaire, le standard européen de poids et de mesure. Et enfin, le dimanche vient remplacer le vendredi saint comme jour de repos. Et le 18 juillet 1932 fut la date du coup de grâce. On commença à faire l'appel en arabe, à faire l'appel à la prière en turc. Pendant 18 ans consécutifs, il sera fait en turc et l'appel en arabe étant interdit. La République kémaliste n'aura jamais un système représentatif. Quand bien même, on verra plusieurs statues et sculptures du Sauveur, le premier leader politique du XXe siècle qui jouira de sa statue de son vivant sera Mustafa Kemal en 1926. Cette mode consistant à afficher l'image d'Atatürk un peu n'importe où se propagera tant en Turquie que la situation attirera l'attention d'Hitler qu'il instituera dans les fondements de sa propagande. C'est un merveilleux livre que Stefan Ihrig, l'historien allemand, nous a donné sur cette influence du culte d'Atatürk sur les politiques d'Hitler, qui est paru chez Harvard University Press. En Turquie, la situation de nos jours est égalée par, bien entendu, Recep Tayyip Erdogan, qui se prend pour le second Atatürk. En somme, une situation de folie qui se rapproche à celle en Corée du Nord. Mais, en 1930, Hafet İnan, porte-parole d'Atatürk en matière historique et sa fille adoptée, obtint la création d'une commission des foyers turcs pour les recherches historiques. Elle était fortement contrôlée par la présidence de la République et on y trouvait toute l'intelligentsia kémaliste, en particulier les Russes, Yusuf Akçura, qui présidera le congrès d'histoire de 1932, et Sadri Maksudi Arsal. Cette équipe va diriger en un temps record un ouvrage peu banal, Les lignes générales de l'histoire turque, lesquelles, sur 600 pages, exposaient des thèses d'histoire de la République. C'est un très beau livre de Tien Kopo qui raconte tout cet épisode en détail. Je reprends quelques passages. En avril 1931, un départ de plus fut fait dans le contrôle de l'histoire. Les foyers turcs, nés hors du kémalisme et avant lui, furent supprimés et remplacés par la Société de recherche historique turque, qui, en étant que création kémalienne, était plus aisément manipulable. Sa première entreprise fut la rédaction, toujours dans la plus grande hâte, de 4 volumineux manuels d'histoire pour les lycéens, présentés dès juillet 1931 à Atatürk, qui retoucha personnellement certains passages. La collection fut mise en service en automne 1931. Ces volumes parurent donc presque un an avant la tenue du premier congrès d'histoire turque en juillet 1932, avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Les participants furent mis devant le fait accompli. Le coup d'État en histoire était achevé. Et en 1933, on allait fermer, bien entendu, le Darül Fünun d'Istanbul pour remplacer par une réforme des universités. Ces manuels kémalistes, longtemps en usage, allaient transmettre ces idées à la génération qui, ayant 15 à 20 ans, entre 31 et 45, constituait l'intelligentsia turque des années 60 à 80. Ces manuels représentent une coupure radicale. Les chapitres sur la préhistoire et l'histoire ancienne, sur ce passé très profond, presque identiques aux lignes générales, y occupent une place de choix. Le rôle des Turcs dans l'histoire de l'islam est amplifié, en même temps que le discours est sensiblement laïcisé. Tout, en général, y est fait pour glorifier la vieille culture turque et, plus subtilement, pour présenter le kémalisme comme l'héritier naturel de la vraie civilisation turque. On cite « La race turque, créatrice des plus grands courants de l'histoire, est celle qui a le plus conservé sa personnalité. Elle s'est beaucoup diffusée et s'est mélangée avec des races voisines dans d'autres pays ou à ses frontières. Néanmoins, la race turque n'a pas perdu ses particularités. Au cours de la préhistoire et de l'histoire, les enfants de cette grande race qui a fondé des sociétés, des civilisations, des États, ont toujours maintenu efficacement leur union avec la langue et la culture commune. Le second thème fort est l'origine centra-asiatique et les migrations. Le chapitre exposant les thèses d'histoire s'ouvre sur une photo d'Atatürk accompagnée de deux autres personnes et d'un enfant qui regardent ensemble une carte du monde. Les regards sont visiblement tournés sur l'Asie centrale, Türk Anayurdu, la mère patrie des Turcs. Dans les pages suivantes, l'existence de la mer d'Asie centrale, d'une brillante civilisation turque préhistorique, des migrations qui vont civiliser le monde entier, est admise comme une vérité historique indiscutable. Une carte sur plein de pages représente le continent eurasiatique, la mer patrie au centre, et un complexe réseau de flèches comme ça, figurant les migrations des Turcs vers la Chine, l'Inde, le Proche-Orient, l'Égypte, l'Europe, jusqu'à l'Irlande. Les chapitres concernant les civilisations anciennes sont très répétitifs. On y décrit l'existence misérable et arriérée des peuples autochtones. Ces peuples autochtones sont les Chinois, les Indiens, les Égyptiens et les Européens. L'arrivée des migrants turcs, porteurs de techniques civilisatrices, irrigation, agriculture, domestication des animaux, vie urbaine, et d'une culture avancée, idée de système étatique organisé, écriture, littérature. Grâce aux ferments turcs, les peuples indigènes pénètrent dans la civilisation. Voici quelques citations de ces passages. Lorsque les Turcs arrivèrent en Mésopotamie, les rives des fleuves étaient complètement marécageuses. Ce sont eux qui fondèrent une brillante civilisation en développant l'irrigation par petits canaux. Ils avaient rapporté ces techniques de la mère patrie. Les Turcs qui arrivèrent en Égypte peuplèrent le delta du Nil alors vide. Les indigènes vivant sur les bords du Nil en étaient à peine à l'âge de la pierre taillée. Après l'arrivée des Turcs, on constate que la vie en Égypte passe d'un seul coup à la civilisation de l'âge de fer. La ressemblance entre les plus vieux vestiges de la Crète et de Troie et ceux des peuples turcs de l'Est de la Caspienne suffit à faire reconnaître les sources qui ont fondé la civilisation égéenne. Les Turcs apprirent aux Européens l'agriculture, la domestication des animaux sauvages, la poterie. Les envahisseurs, très supérieurs aux Européens dans les domaines de la pensée, des arts, des connaissances, les tirèrent de l'âge des cavernes et les mirent sur la voie de civilisation. Beaucoup d'orateurs du congrès de 1932 centrèrent leur intervention sur la notion de race turque et cherchaient à en donner une définition anthropologique scientifique. On se référait aux théoriciens européens. C'est d'ailleurs, les théories européennes, c'était leur seule source, comme Gobineau à Deniker et à son essai d'une classification des races humaines. Fétinan s'intéressa aux ouvrages de Georges Montandon, qui se mit ensuite mis au service de l'antisémitisme, bien entendu. Mais c'est le Genevois Eugène Pitard qui s'imposa à l'époque comme spécialiste de la race turque. Il fit des recherches sur les Balkans et l'Anatolie et acquit beaucoup de prestige par la rédaction du volume « Les races et l'histoire » de la collection, qui est publiée dans la collection de l'évolution de l'humanité d'Henri Baer. Il est professeur puis recteur de l'université de Genève. Il milita pour que l'anthropologie raciale sorte du ghetto scientifique et soit enseignée comme les autres disciplines. Ses arguments étaient assez inquiétants. Il souhaitait que l'anthropologie soit la base d'une politique d'eugénisme. Bien qu'il ne fût pas un théoricien du racisme, on peut puiser dans ses écrits des passages isolés pouvant être cités à l'appui des théories racistes. Pitard et les tenants des thèses d'histoire étaient faits pour se rencontrer. Les premiers contacts avec Arafetinan semblent dater de 1935. Il devint très vite un maître à penser, puisqu'il était président d'honneur du deuxième congrès d'histoire turque de 1937. Il publie un livre, « La Nouvelle Turquie », et c'est sous sa direction qu'Arafetinan effectua sa thèse « L'Anatolie, pays de la race turque », soutenue à Genève en 1939. Dès 1928, dans la revue turque d'anthropologie, où on voit aussi les articles de Georges Dumézil, qui était à Istanbul à l'époque, Pitard encourageait les chercheurs à prouver l'origine turque des Étrusques et par la même méthode des Sumériens et des Hittites. C'est dans l'élan du congrès d'histoire de 1932 qu'Arafetinan, puissamment appuyé par son père adoptif et l'État turc, allait réaliser, de 37 à 39, une vaste enquête craniométrique portant sur 74 000 cas s'appuyant sur des méthodes de travail mises au point par Pitard. Les recherches d'Arafetinan ne donneront évidemment aucun résultat scientifique. Mais d'aucuns seront preneurs de ce discours racial dont l'époque était grosse. En 1935, la théorie de la langue soleil, selon laquelle toutes les langues du monde proviennent du turc, vint compléter l'édifice des thèses d'histoire. D'ailleurs, après, vers la fin de sa vie, Atatürk lisait des textes étranges sur l'Atlantide et sur le continent Mu et sur les extraterrestres. Pour les 95% des historiens vivant et travaillant dans l'enseignement en Turquie d'aujourd'hui, tout ce que je viens de vous raconter est calomnie. Voilà. Je rejoins mon ami Ethem Eldem qui disait dans un article de 2004, je pense, qu'il fallait sauver l'histoire de l'Empire ottoman et des Turcs des Turcs. Et comme le chant de l'histoire turque, mais pour tant d'autres, comme le dit notre collègue, ami Patrick Boucheron, c'est à une réassurance scientifique du régime de vérité de la discipline historique que nous devons collectivement travailler. Oui, là et ailleurs, il nous faut une histoire de personne. Une histoire, je le cite encore, Boucheron, Patrick, sans fin, parce que toujours ouverte à ceux qui la débordent et la transportent, et sans finalité. Une histoire que l'on pourrait traverser de part en part, librement, gaiement, visiter en tous ces lieux possibles, désirer, comme un corps offert aux caresses, pour ainsi, oui, demeurer en mouvement. D'abord, un constat pour récapituler nos cours au collège. En Occident chrétien, à partir du XVIe siècle, la grande chaîne des êtres, Scala Naturae, commença à se briser. Le démantèlement s'acheva dans un contexte agité par les polémiques scientifiques, avant et après la publication du livre de Darwin, On the Origins of Species, 1859. Le coup fatal s'abattit avec la publication de la théorie restreinte de la relativité en 1905 en quatre volets. J'ai ensuite évoqué le travail de Tony Grafton en qui soutenait que l'Ars Historica, qui avait débuté en Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ, s'était trouvé défié par l'Ars Critica aux alentours de 1700 en Europe. L'un avait comme cadre temporel général le dictum inventé par Cicéron, Historia Magistra Vitae, histoire maîtresse de vie, qui était l'outil de perpétuation identitaire des sociétés non modernes. J'ai soutenu, en suivant les anthropologues et mes propres recherches, qu'un nouveau rapport au temps et au passé avait vu le jour en Occident. C'est le temps moderne, le moderne, et qui impliquait un changement qualitatif substantiel des sociétés non modernes. C'était un processus d'auto-acculturation. Une fois le processus démarré, ces deux structures temporelles antagonistes se sont retrouvées en collision, comme c'est le cas de l'histoire de l'Empire ottoman. La querelle des anciens et des modernes en était le symptôme en Occident-ci. Et à partir de ce moment, le non-moderne a continué à œuvrer dans le moderne sous forme d'anti-moderne. De cette collision ont émergé des concepts trop volatiles. Un passé très profond à comprendre et à remplir, comme ce fut le cas de l'histoire turque, remplir par des fantasmes. Mais non seulement l'histoire turque, l'histoire allemande, le sanskrit, les aryens. Et un avenir très incertain à construire. Or, les institutions résistent au changement. Dans un monde moderne, les sociétés ont essayé de continuer comme si le passé leur donnait encore de la légitimité. D'où la forte institutionnalisation de l'enseignement de l'histoire à l'école sous la Troisième République en France. Dans un monde où le topos d'historien magistrat avait perdu de son efficacité et de son effectivité, les sociétés, désormais organisées en état-nation, ont voulu non seulement le perpétuer, historien magistrat, mais aussi inventer un passé devant cet énorme gouffre temporel qui s'est érigé après Darwin. Alors, cette chose, cette continuation, cette histoire était désormais au service, bien entendu, de l'État-nation et sous le bandeau de l'utilité. Donc, produire des citoyens dignes de la société. Car ces sociétés, ne concevant que très rarement le sens et la signification de ce passage, de cette transition, furent très timides à user de la nouvelle liberté à construire un futur. Ils ont préféré à construire un grand passé. Ainsi, dans un monde désormais moderne, la transition et le passage vers l'aboutissement ont été bloqués, retardés par l'existence et la résistance du non-moderne devenu anti-moderne. Le temps moderne est une invention nouvelle et récente à vocation universelle. Et pourtant, non seulement elle ne s'est pas universalisée, mais elle est devenue l'objet de multiples et violentes résistances. Car, on peut très bien le comprendre, elle était associée au progrès. Contrairement à ce que professe le concept du progrès, le moderne, et là je le soutiens fermement, n'est pas le synonyme du meilleur. Différence, oui, changement, oui, mais pas le meilleur. Oui, effectivement, au début, elle était bien entendu associée à cette notion de progrès, au betterment ou aux avancées. Mais appréhendée dans la généralité, dans sa généralité, il est évident qu'il n'instaure pas une relation de hiérarchie par rapport au passé. Il s'agit de l'institutionnalisation de la différence à la place de la même-té. Et dans notre monde moderne, on est devant la possibilité sans précédent d'une liberté ou des libertés. Il nous revient de la construire. Pour conclure, nous vivons dans cette phase de nos sociétés occidentales où la collision entre les conservateurs et les partisans des usages de la liberté moderne est féroce et où les deux conceptions d'historiographie continuent à s'opposer. D'un côté, l'histoire est là comme outil de reproduction, dans le sens bourdieusien, ou comme outil idéologique de l'État, si vous le souhaitez, selon Althusser. C'est pourquoi une grande partie des historiens continue à écrire, encore et toujours, cette histoire. Cette histoire est identitaire, mémorielle et a affaire à un passé qui ne passe pas aux revenants et aux morts. Je pense qu'une autre historiographie a beaucoup appris des tournants de ces dernières décennies. Elle s'est enrichie incroyablement de ces débats sur son épistémologie et sa réflexivité. Peut-on donc inventer une histoire de personne qui prendra en considération toute la richesse et la misère de l'expérience humaine? Ou bien, je cite, « une histoire des problèmes et non pas de doctrine, une histoire de la pensée se faisant en tissant sans cesse à partir de l'empilement des questionnements déjà formulés, les conditions de possibilité d'une interrogation nouvelle, comme l'a formulé Judith Reval. » Je termine avec « La tempête » de Shakespeare, où Prospero dit « There, sir, stop! Let us not burden our remembrance with a heaviness that's gone. » En la traduction dite bonne foi, « Laissons cela. N'encombrons pas notre mémoire de ce fardeau qui a disparu. » Il se peut que le passé passe. L'histoire à venir n'est et ne sera ni idéologique ni mémorielle. Elle sera une histoire de personne et de tout le monde entre Outis et Prosopone. Merci.
Bien sûr, et pour bien des raisons, c'est à nous, cher Levon, de te remercier. Assurément, nous n'avons pas perdu notre temps en te suivant jusqu'au bout, parce que c'est aujourd'hui, au fond, que sonnait l'heure de l'explicitation, et où on comprend mieux et plus intensément, et de manière sans doute aussi un peu brûlante, poignante, ce que tu appelles l'avènement du moderne, ce que je peinais au fond à saisir, à comprendre ou à accepter. Et au moins, nous sommes avertis, comme aurait dit Benjamin, et nous comprenons à t'entendre ce que tu entends par là, c'est-à-dire au fond le bruit d'un fracas, de ce que tu appelles une collision, c'est-à-dire un combat, pas perdu d'avance, mais à venir, lui aussi. Je voudrais dire deux choses avant d'engager le débat, si vous le souhaitez, ou te demander de poursuivre sur tel ou tel point, tout ce que tu as dit sur le nom propre, en particulier au début, me touche beaucoup, parce que je pense que l'écriture de l'histoire a à voir avec l'arrogante souveraineté des noms propres, justement, et qu'il est si difficile de se défaire de leur emprise. Je voudrais dire, juste pour engager ce débat, deux choses. La première, c'est qu'il me semble que s'il y a eu une explicitation, elle ne vaut pas seulement par ton récit si net de l'expérience de l'avènement du moderne en Turquie, avènement du moderne ou non, justement, cette invention d'un grand passé par incapacité à construire un futur désirable. Mais elle a commencé d'emblée avec cette reprise de Célan que tu avais lancé la semaine dernière, que tu reprenais aujourd'hui. Et je voudrais juste dire cela, c'est que cette explicitation indissociablement politique et poétique Elle ne perd pas son temps, effectivement, à citer les poètes, puisque, justement, c'est dans la poésie qu'elle trouve ses leçons d'exactitude. Et c'est pour cela, effectivement, que me touche toute cette chaîne de Celan à Mandelstam, de Mandelstam via Lévinas à Bonnefoy, à la toute fin. Et je reconnais bien là ta manière. C'est moins une question qu'un commentaire. Puis l'autre chose, je ne sais pas si ça a une valeur consolante ou consolatrice, mais quand tu dis, voilà, ce que je dis voilà, avec gravité et émotion, ce que tu dis, quand tu dis ce que je viens de dire est pour 95% de mes collègues calomnie, ça veut dire que tu poses comme l'histoire, l'écriture de l'histoire, dans son principe de minorité. En effet, oui. Mais nous vivons dans le même monde. Pas évidemment dans la même région du monde, avec la même gravité, la même intensité. Mais je ne vois pas une région du monde où ce dont tu as parlé ne serait pas minoritaire. Faire de l'histoire un instrument d'émancipation s'adressant aux intelligences singulières, qui parle d'un temps qui produit des différences et non de l'identité, est structurellement minoritaire pour les raisons que tu as dites, qui est une histoire partagée. Cette histoire, et là, on partage le fait que, depuis si longtemps, et de manière si tenace et opiniâtre, l'histoire est le discours d'escorte d'un pouvoir qui cherche à se reproduire. Pas seulement en Turquie.
En Inde, surtout.
Partout. Ici aussi. Sauf que, et c'est là où on doit aussi entendre la différence, tu viens d'un pays où c'est pas seulement minoritaire, mais ultra minoritaire. Et cette différence, elle fait que tu es ici, c'est-à-dire que on peut vivre assez confortablement dans la minorité, mais quand on devient vraiment ultra minoritaire, c'est possiblement dangereux pour sa vie même. Donc, cela, je crois que nous l'avons entendu, et ce que je veux faire entendre, c'est respectueusement à la fois cette profession de solidarité, de dire, au fond, voilà, on en est tous là, et en même temps de différence, on en est tous là, mais pas avec le même degré de risque, y compris personnel.
En effet, mais
tu sais, c'est tellement inculqué dans la culture des gens qui ont été éduqués par la République. Ce n'est pas seulement les collègues, les historiens, même vos proches, quand ils vous entendent, ils se trouvent dans une position de mécontentement aussi, qui est compréhensible, je dirais. Parce que quand on passe... quand on traverse une période où la vérité est instruite de cette manière-là qui vous est donnée, eh ben, vous n'avez pas d'autre vérité devant vous. Donc, ainsi, il faut revenir à la donation de Constantin.
C'est de Lorenzo Valla. Oui. On en reparlera, ça, peut-être, parce que c'est une manière, au fond, de réarmer ou de réassurer ou de, je dirais, de nous faire comprendre à nous qui, au fond, ne connaissons peut-être pas la valeur de cet héritage, ce qu'est l'humanisme, ce qu'il est vraiment. Mais je fais d'ailleurs remarquer, puisque tu faisais allusion à l'enseignement ici même, d'ailleurs, d'Edem Eldem. Je faisais juste remarquer combien ce que tu disais aussi de cette histoire, en l'occurrence, voilà, du kémalisme, d'Atatürk, des années 20, des années 30, combien c'était une merveilleuse illustration de la nécessité d'une histoire qui ne s'enferme pas dans les frontières nationales, qui ne cherche pas à construire un passé glorieux, parce que, au fond, ce qu'on lit, parce qu'on comprend en t'entendant, bah, c'est que c'est notre histoire. C'est que c'est l'histoire des années 30. Et donc, des années 20 et 30. Et que, là encore, avec des différences, des innovations d'un côté, des imitations de l'autre, et il n'est pas si évident de savoir
rejet,
qui imite l'autre.
C'est un même monde.
C'est un même monde. Et c'est un monde qui a été, à un moment donné, fasciné par le pouvoir autoritaire.
Oui. Dont la source découlait du passé.
Et non, ils n'ont jamais cherché à construire le futur. C'est ça ce qui est le grand problème, à mon avis.
Ils pouvaient le faire, parce que, par exemple, pour l'Empire ottoman, ils pouvaient inventer quelque chose d'hétéronome.
Oui.
Et non, ils n'ont pas fait. Ça.
Mais par exemple,
mais parler des contingences dans l'histoire, c'est.
Mais par exemple, bon, intégrer effectivement le. Alors tu as à un moment donné prononcé le nom qui fait trembler, fascisme. Bon, alors, on peut discuter effectivement de l'utilité de voilà d'une catégorie qui est une catégorie. Voilà. Général et générique de sciences politiques, mais globalement. Comment faire aujourd'hui, c'est une question de curiosité, comment faire aujourd'hui une histoire, on va dire, transnationale, globale, comparée ou connectée, de cette inscription des années 20 et 30 de l'histoire de l'Empire ottoman puis de la Turquie dans une histoire globale et pas strictement européenne d'ailleurs. Est-ce que ça existe d'ailleurs bibliographiquement?
Oui.
Historiographiquement?
Oui. Je pense que quand on parle aujourd'hui de l'histoire globale ou mondiale, il y a beaucoup de choses qu'on a bien fait, beaucoup de choses aussi qu'on n'a pas trop bien fait. Mais je pense que c'est possible, au moins, une histoire comparatiste à l'échelle mondiale. À partir... Prenons, par exemple, certains concepts. Non. Pouvoir. Oppression. Alors, ces concepts-là, bien qu'ils existent en... des langues, non, nationales, mais qui sont traduisibles.
Oui.
Donc, ce que je pense, c'est qu'à partir des traduisibles, on peut essayer d'aller voir ce que ces concepts signifiaient dans plusieurs langues. On peut les comparer en regardant les pratiques. Mais c'est un travail monumental et collectif.
Et puis, il y a aussi quelque chose, si on veut étager les différences entre symboles imaginaires et tel que Lévi-Strauss, justement, le fait, la mise en partage sociale des imaginaires, ça s'appelle le pouvoir symbolique.
Oui.
Et le pouvoir symbolique, là, pour le coup, il traduit immédiatement, visuellement, par exemple, ce que c'est qu'une politique l'image et du culte de la personnalité. Mmh. Quand tu dis, c'est le premier à s'être fait statufier de son vivant, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Ouais. Tout le monde le voit. Et là, on n'a pas besoin de construire... des murs culturalistes pour dire non, mais c'est différent, ça ne doit pas être la même tradition, ça ne doit pas être la...
Non, on voit partout, Staline, c'est quoi?
Donc on peut travailler, je pense. C'est possible et on peut le faire.
Et puisqu'on parle de mur, je n'ai pas bien compris si tu si tu mets le désir de mur, on va l'appeler comme ça, qui effectivement aujourd'hui enfièvre le monde, je dirais au crédit ou au débit de ce non-moderne qui travaille ou empoisonne le moderne, ou au contraire comme une manifestation du moderne. C'est là où...
Non, c'est comme... Je me souviens de ma citation de Lévi-Strauss qui dit que l'humanité, pour certains tribus, s'arrête à la frontière de
ouais.
la tribu. Donc, pour les autres aussi. Donc, dans cette conception, il y a des murs.
D'accord. Donc, c'est
la perpétuation de cette conception dans la modernité qui provoque qu'on a toujours, qu'on aura toujours des murs.
Voilà, oui, c'est là où ouais. peut-être on est... c'est là où est notre différence. C'est-à-dire que moi, je considère que le besoin de séparation est une maladie de la modernité.
Voilà. Moi, je pense que ça arrive... Voilà. Il y a des racines...
Oui, non, mais ça... je ne vois pas l'intérêt de le considérer comme une sorte de rejeu d'archaïsme, même si c'est très cohérent ce que tu dis. À toute fin, j'appelle temps moderne la dynamique historique qui accepte effectivement la production des différences dans ce cas-là. Mais en même temps, voilà, c'est vrai que si on se souvient par exemple, la force, on en reparle beaucoup aujourd'hui du reportage guidé de Michel Foucault en Iran, c'est qu'il comprend que la révolution iranienne, c'est au fond un prolongement de la modernité de la société.
Bah, bien entendu.
Et que ça va être, il voit ce qui va arriver, et il dit, mais ne vous trompez pas, l'islamisme n'est pas une sorte de retour du non-moderne dans des sociétés qui n'ont pas réussi à se moderniser, mais c'est une ultra-modernité.
Bah, bien sûr, bien sûr. Une fois tu entres dans ce mouvement de moderne, mais bien que tu sois non-moderne, tu es ultra-moderne en même temps. Tu vois, c'est ça le grand paradoxe de la chose.